Chapitre 6. Contenant un dialogue entre Sophie et Mrs. Honora, qui pourra soulager un peu les tendres sollicitudes que la scène précédente peut avoir fait naître dans l'esprit d'un lecteur bon et sensible. Mrs. Weston se retira, après avoir obtenu de Sophie la promesse dont nous avons parlé dans le dernier chapitre, et aussitôt après parut Mrs. Honora. Elle était à travailler dans un appartement voisin et avait été attirée au trou de la serrure par quelques éclats de voix qui avaient eu lieu dans le dialogue précédent. Elle y était demeurée constamment jusqu'à la fin. À son entrée dans la chambre de Sophie, elle la trouva sans mouvement, les larmes coulant de ses yeux avec abondance. Elle ordonna aussitôt au sien d'en verser une quantité convenable à la circonstance, et après avoir été obéie, elle commença en ces termes. « Bonté du ciel ! Ma chère maîtresse, qu'y a-t-il donc ?»«
Rien !» s'écria Sophie.
« Rien ? Oh, chère madame !» répondit Mrs. Honora, « il ne faut pas me dire ça. Quand je vois madame dans la peine, et quand il y a eu une conférence de cette nature entre madame et Mrs. Weston. « Ne m'importunez pas !» s'écria Sophie, « je vous dis qu'il n'y a rien. Dieu, pourquoi m'avez-vous donné le jour ?»«
Non, madame, » dit Mrs. Honora, « non, vous ne me persuaderez jamais que vous vous désoliez ainsi pour rien. Sûrement je ne suis qu'une servante, mais sûrement j'ai toujours été fidèle à madame, et sûrement je voudrais servir madame toute ma vie. »
« Ma chère Honora, » dit Sophie, « il n'est pas en ton pouvoir de me rendre le moindre service. Je suis irrévocablement perdue. »
« Le ciel nous en préserve, » répondit la femme de chambre. « Mais si je ne puis vous rendre aucun service, je vous en prie, dites-moi, madame, ce sera ma consolation de le savoir. Dites-moi, chère madame, je vous en prie, dites-moi ce dont il s'agit.
Mon père va me marier à un homme que je méprise et déteste également. » s'écria Sophie.
Oh, chère madame, répondit Mrs. Honora, quel est ce méchant homme, car sûrement il est bien méchant, sans quoi madame ne le mépriserait pas. Dites-moi son nom.
Son nom? Ah, je ne puis, répliqua Sophie, tu ne le sauras que trop tôt.
Il faut dire la vérité, elle le savait déjà, aussi n'insista-t-elle pas beaucoup sur ce point.
Elle continua donc en ces termes, je ne prétends point donner un avis à madame. D'ailleurs, madame en sait beaucoup plus que moi, qui ne suis qu'une servante. Mais, je le proteste, il n'y a pas un père dans toute l'Angleterre qui eût le pouvoir de me marier contre mon consentement. Et sûrement, M. Weston est si bon que s'il savait seulement que madame méprise et déteste le jeune homme, très sûrement il ne voudrait pas vous marier avec lui. Et si madame voulait me permettre de le dire à mon maître, sûrement il vaudrait beaucoup mieux que cela vînt de votre propre bouche. Mais comme madame ne veut pas salir sa bouche de son vilain nom...
Vous vous trompez, Honora, dit Sophie. Mon père était déjà déterminé avant d'avoir cru convenable de m'en parler.
C'est d'autant plus honteux à lui, s'écria Mrs. Honora, que c'est vous qui devez vivre avec lui et non mon maître.
Quoiqu'un homme puisse être très bien, il n'est pas à dire pour cela que toutes les femmes soient obligées de le trouver beau. Je suis sûr que mon maître n'agirait jamais ainsi de lui-même. Je voudrais bien que quelques personnes ne se mêlassent que de ce qui les regarde. Elles ne voudraient pas, j'en suis sûr, qu'on les servît de la même manière, si elles se trouvaient dans les mêmes circonstances. Car, malgré que je sois une servante, je crois aisément que tous les hommes ne sont pas également agréables. Et à quoi sert-il donc à madame d'avoir une si grande fortune, si elle ne peut choisir celui qu'elle juge être le plus beau? Fort bien, je me tais. Mais sûrement ça fait pitié. Que quelques gens ne soient pas mieux nés, et encore pour moi, je ne m'en embarrasserai guère. Mais en outre, il n'a pas tant d'argent. Et qu'est-ce que ça fait? Madame a assez d'argent pour deux. Et où madame peut-elle mieux placer sa fortune? Car sûrement tout le monde doit en convenir, il n'y a pas d'homme plus beau, plus charmant, plus agréable, ni mieux fait sur la terre.
Que voulez-vous dire avec tout ce bavardage? S'écria Sophie très gravement. Vous ai-je autorisé à prendre de pareilles libertés?
« Non, madame, répondit-elle, je vous demande pardon, je ne croyais pas faire mal. Mais le pauvre jeune homme m'a bien trotté dans la tête depuis que je l'ai vu ce matin.
Sûrement, si madame l'avait vu seulement, vous n'auriez pas pu vous empêcher d'en avoir pitié.
Le pauvre jeune homme! Je souhaite qu'il ne lui soit pas arrivé quelque malheur, car il se promenait ici aux environs, les bras croisés, et il avait l'air si triste tout ce matin. Je vous promets qu'il m'a fait presque pleurer, rien que de le voir. « Voir qui ? » dit Sophie. « Le pauvre Monsieur Jones, » répondit Honora. « Le voir ? Le voir ? Comment ? Où l'avez-vous vu ? » s'écria Sophie. « Tout près du canal, madame, » dit Honora. Il s'y est promené toute la matinée, et enfin il s'est assis sur le bord de l'eau. Je crois qu'il y est encore. Sûrement, si ce n'avait été par modestie, étant fille comme je le suis, je me serais approché de lui et je lui aurais parlé. « Je vous en prie, madame, permettez-moi d'y aller et de voir seulement, par curiosité, s'il y est encore. »« À quoi bon ?» dit Sophie. « Il n'y est plus, non, non. Et que ferait-il là ? Il en est parti à présent, j'en suis sûr. D'ailleurs, comment, pourquoi iriez-vous le voir ? D'ailleurs, j'ai besoin de vous pour quelque autre chose. Allez me chercher mon chapeau et mes gants. Je dois aller, avant dîner, me promener dans le petit bois avec ma tante. » Honora fit ce qui lui était ordonné, et Sophie mit son chapeau. Mais, en regardant dans la glace, elle crut apercevoir que le ruban qui l'attachait ne lui allait pas du tout. Elle renvoya sur le champ sa femme de chambre lui en chercher un autre d'une autre couleur. Elle ordonna ensuite à plusieurs reprises à Mrs. Honora de ne pas quitter son ouvrage sous aucun prétexte, lui disant qu'elle en était très pressée et qu'il fallait qu'il fût fini le jour même. Elle balbutia encore quelque chose sur la promenade qu'elle devait faire au petit bois, et, prenant le chemin opposé, elle marcha aussi vite que ses jambes délicates et tremblantes purent le lui permettre, en se dirigeant vers le canal. Mrs. Honora avait dit vrai. Jones y avait passé 2 heures de la matinée à rêver tristement à sa Sophie, et venait de sortir par une porte du jardin au moment où Sophie entrait par une autre, en sorte que les malheureuses minutes employées à changer le ruban empêchèrent ses tendres amants de se rencontrer ce jour-là. Accident extrêmement malheureux, dont les jeunes personnes qui me liront ne manqueront pas de tirer une leçon salutaire, car je défends formellement à tout critique du genre masculin de s'occuper d'une circonstance que je n'ai racontée que pour les femmes, auxquelles seules je laisse la liberté d'y faire tel commentaire qu'elles jugeront convenable. Chapitre 7. Tableau en raccourci, tel qu'on devrait toujours le faire, de l'entrevue la plus cérémonieuse qu'on puisse imaginer. Scène d'un genre plus touchant, peinte en grand. Quelqu'un a très bien observé, et cette observation a peut-être été faite par d'autres, qu'un malheur ne vient jamais seul. C'est ce qui arriva en ce moment à Sophie, qui non seulement eut la douleur de ne pas rencontrer celui qu'elle aimait, mais eut encore le tourment d'être obligée de se parer pour recevoir la visite de celui qu'elle haïssait. Ce fut dans l'après-dîner du même jour que M. Weston instruisit pour la première fois sa fille de ses intentions, en lui disant qu'il savait bien que sa tante lui en avait déjà parlé. La tristesse se peignit aussitôt sur le visage de Sophie, des larmes coulèrent de ses yeux malgré elle. « Allons, allons, » dit M. Weston, « point de sot enfantillage. Je sais tout. Oui, ma sœur m'a tout dit. »« Est-il possible, » dit Sophie, « que ma tante m'ait déjà trahi ?» « Oui, oui, » dit M. Weston. « Elle vous a trahi, oui. Mais pourquoi vous êtes-vous trahi vous-même hier à dîner ? Je crois que vous avez fait voir assez clairement quelle était votre inclination. Mais vous autres, jeunes filles, vous ne savez jamais ce que vous voulez. Voilà pourquoi vous pleurez, parce que je veux vous marier avec l'homme que vous aimez. Votre mère, je m'en souviens, faisait la plaintive et la dolente, tout justement comme vous. Mais elle n'y pensa plus 24 heures après que nous fûmes mariés. « Monsieur Blifil est un jeune gaillard qui mettra bientôt fin à toutes vos fadeurs. Allons, réjouissez-vous, réjouissez-vous, je l'attends à chaque minute. » Sophie fut alors convaincue que sa tante s'était conduite honnêtement à son égard. Elle prit donc le parti d'employer tout son courage à passer cette désagréable soirée, afin d'éviter de donner le moindre soupçon à son père. Monsieur Blifil arriva bientôt, et Monsieur Weston s'étant presque aussitôt retiré, les deux jeunes gens restèrent seuls. Il s'ensuivit un long silence de près d'un quart d'heure, car le jeune homme, qui devait naturellement commencer la conversation, avait tout le saut embarras que donne la timidité. Il essayait souvent de parler, et tout aussi souvent ses paroles s'arrêtaient sur ses lèvres. Elles sortirent à la fin avec une abondance de compliments étudiés et ridiculement exagérés, auquel Sophie répondit de son côté avec des yeux baissés, de légères inclinations de tête et des monosyllabes bien polies. Blifil, dont l'inexpérience avec les femmes égalait la bonne opinion qu'il avait de lui-même, prit cette conduite pour un modeste assentiment en sa faveur. Et lorsque Sophie, pour se délivrer d'une situation qu'elle ne pouvait plus supporter, se leva et quitta l'appartement, il attribua cette retraite à une pure timidité et se consola en pensant qu'il serait bientôt à même de jouir de sa compagnie au gré de ses désirs. Il resta donc parfaitement satisfait de l'heureux avenir qui se présentait devant lui. Quant à la possession entière et absolue du cœur de sa maîtresse, que les amants romanesques ont la simplicité d'exiger, jamais la moindre idée de cette espèce n'était entrée dans sa tête. La fortune et la personne de Sophie étaient les seuls objets de ses vœux, et il ne faisait aucun doute qu'il n'en obtint bientôt la propriété absolue. Il connaissait tout l'empressement que M. Weston mettait à ce mariage, ainsi que la scrupuleuse et ponctuelle obéissance de Sophie aux volontés de son père, et savait que celui-ci en exigerait une plus absolue encore s'il était nécessaire. Il pensa donc que cette autorité, jointe aux agréments personnels et aux charmes de l'esprit qu'il se félicitait de posséder également, ne manquerait pas de réussir auprès d'une jeune personne dont il ne doutait pas que le cœur ne fût parfaitement libre. Il est certain qu'il n'avait pas la moindre jalousie de Jones, et je m'en suis souvent étonné. Peut-être imaginait-il que la réputation que ce jeune homme avait dans tout le comté, je laisse au lecteur à juger si elle était bien fondée, d'être un des plus mauvais sujets d'Angleterre, l'aurait rendu odieux à une jeune personne de la modestie la plus exemplaire. Peut-être ses soupçons avaient-ils été écartés par la conduite de Sophie et de Jones lui-même quand ils étaient tous réunis. Enfin et surtout, il était très persuadé qu'il n'existait pas un autre lui-même qu'on pût lui opposer. Il croyait connaître Jones à fond et le jugeait réellement un sot à cause du peu d'attachement qu'il semblait avoir pour ses intérêts. Il n'avait aucune crainte qu'il aimât Sophie, et quant à sa fortune, il était bien persuadé qu'elle entrerait pour peu de choses dans les calculs d'un imbécile comme lui. Blifil croyait d'ailleurs que le commerce de Jones avec Molly Seagrim subsistait toujours, et qu'il finirait indubitablement par le mariage, car Jones aimait tendrement Blifil depuis l'enfance et n'avait jamais eu de secret pour lui, jusqu'au moment où la manière infâme dont il l'avait traité pendant la maladie de M. Allworthy eut entièrement aliéné son cœur. La querelle qui eut lieu à cette occasion, et qui n'était pas encore tout à fait terminée, fut cause que M. Blifil ne sut rien du refroidissement survenu dans la passion de Jones pour Molly. Tout considéré, M. Blifil ne voyait rien qui pût s'opposer à ses succès dans le cœur de Sophie. Il en concluait que sa conduite ressemblait à celle de toutes les autres jeunes personnes. La première fois qu'elles recevaient la visite d'un homme qui leur était présenté comme amant, et que tout répondait parfaitement à son attente. M. Weston se trouva sur le chemin de notre amant comme il sortait de chez sa maîtresse. Il le trouva si fier de son succès, si amoureux de sa fille, si charmé de la réception qu'elle lui avait faite, que le vieux gentilhomme se mit à danser, à cabrioler autour du salon et à exprimer la joie la plus folle par les actions les plus grotesques. Il n'avait jamais su commander à aucune de ses passions, et celle qui prenait l'ascendant sur lui l'entraînait toujours dans les plus ridicules excès. Dès que M. Blifil fut parti, et M. Weston ne s'en sépara pas sans lui avoir prodigué mille et mille embrassades des plus tendres, le crédule gentilhomme vola chez sa fille. Il ne l'eut pas plus tôt aperçu qu'il lui peignit son ravissement avec une sorte d'extravagance, lui dit qu'elle était la maîtresse de choisir les habits et les bijoux qu'elle aimerait le mieux, lui déclara que le seul usage qu'il voulait faire de sa fortune était de la rendre heureuse, l'accabla ensuite des caresses les plus passionnées, lui donna les noms les plus tendres, et lui protesta qu'en elle résidait sa joie et son bonheur. Sophie, voyant son père dans cet accès de tendresse, dont elle ne connaissait pas absolument la cause, car les accès de tendresse lui étaient assez ordinaires, mais celui-ci était plus violent que de coutume, pensa qu'elle ne retrouverait peut-être jamais une occasion plus favorable de lui ouvrir son cœur, au moins relativement à M. Blifil, prévoyant trop bien la nécessité dans laquelle elle serait tôt ou tard d'en venir à une explication entière. Après avoir donc remercié son père de tous les témoignages de tendresse qu'il lui avait prodigués, elle ajouta, avec un regard plein d'une douceur inexprimable, « Est-il possible que mon cher papa soit assez bon pour faire tout son bonheur du bonheur de sa Sophie ?» M. Weston lui en confirma l'assurance par un gros juron et un baiser. Alors elle lui prit la main, tomba à ses genoux, et après lui avoir fait les protestations les plus vives et les plus tendres de son attachement pour lui et de sa soumission à ses volontés, elle le supplia de ne point la rendre la plus misérable créature du monde en la forçant d'épouser un homme qu'elle détestait. « Je vous en conjure, ajouta-t-elle, pour l'amour de vous-même, aussi bien que pour l'amour de moi, puisque vous avez la bonté de me dire que votre bonheur dépend du mien. » « Comment ? Quoi ? » dit M. Weston, en la fixant avec des yeux hagards. « Oh, mon père, continua-t-elle, il ne s'agit pas seulement du bonheur de votre pauvre Sophie, mais de son existence. Sa vie tient à ce que vous lui accordiez sa demande. Je ne puis vivre avec M. Blifil. Me forcer à l'épouser, c'est vouloir ma mort. » « Vous ne pouvez pas vivre avec M. Blifil ? » dit M. Weston. « Non, sur mon âme, je ne le puis, » répondit Sophie. « Eh bien donc, mourez, et que le diable vous emporte !» s'écria M. Weston en la repoussant rudement loin de lui. « Oh, mon père !» s'écria Sophie en saisissant le pan de son habit. « Mon père, ayez pitié de moi, je vous en conjure !»« Ah, détournez ces regards sévères, n'employez pas avec votre fille des expressions si cruelles !» Pouvez-vous rester insensible en voyant votre Sophie dans cette épouvantable situation? Le meilleur des pères peut-il briser mon cœur? Veut-il me faire mourir de la plus cruelle, de la plus affreuse, de la plus longue de toutes les morts? Bah, bah! S'écria M. Weston. Fausseté et sottise que tout cela, ruse féminine que tout cela. Votre mort, le mariage vous tuera-t-il? Oh, mon père, répondit Sophie. Un pareil mariage est pire que la mort. Ce n'est pas seulement de l'indifférence, c'est de la haine, c'est de l'horreur que j'ai pour lui. « Vous l'épouserez, s'écria M. Weston, quand vous l'auriez mille fois plus en horreur. » Ce qu'il confirma par un serment trop grossier pour que nous le répétions. Et après s'être livré à toute la violence de son caractère, en répétant mille et mille fois qu'il n'en démordrait pas, il conclut en ces termes. « Je suis déterminé à ce mariage, et à moins que vous n'y consentiez, je ne vous donnerai pas quatre sous, pas un liard. Non, quand je vous verrai mourir de faim dans la rue, je ne vous donnerai pas un morceau de pain pour vous secourir. Voilà ma résolution arrêtée. Adieu. Réfléchissez-y. » Après ces derniers mots, il s'arracha les mains de sa fille avec tant de violence que le visage de celle-ci donna contre le plancher, et il sortit précipitamment de la chambre, laissant la pauvre Sophie étendue sur le carreau. M. Weston, arrivant dans le salon, y trouva Jones, qui, voyant son ami pâle, égaré et presque sans respiration, ne put s'empêcher de lui demander la cause de tous ces signes alarmants. M. Weston lui raconta sur-le-champ tout ce qui s'était passé, lui dénonça avec amertume la conduite de Sophie et plaignit très pathétiquement la situation cruelle de tous les pères assez malheureux pour avoir des filles. Jones, à qui l'on avait fait un secret de tout ce qui avait été résolu en faveur de Blifil, se sentit glacé à ce récit. Mais, reprenant un peu ses esprits, le désespoir, comme il en convint depuis, lui inspira de faire à M. Weston une demande qui semblait exiger plus d'audace qu'il n'est donné à une créature humaine d'en avoir. Il lui demanda la permission de se rendre auprès de Sophie et d'employer tous ses efforts pour obtenir son consentement au désir de son père. Quand M. Weston aurait eu la vue aussi perçante qu'il était remarquable pour l'avoir extrêmement bornée, la colère aurait fort bien pu l'avoir aveuglé en ce moment. Il remercia Jones de l'offre qu'il lui faisait d'entreprendre cette tâche et lui dit « Va, va, je t'en prie, essaye tout ce que tu pourras. » Il fit ensuite le plus effroyable serment qu'il la mettrait à la porte, à moins qu'elle ne consentît à l'union projetée. Chapitre 8. Entrevue de Jones et de Sophie. Jones se rendit à l'instant auprès de Sophie. Il la trouva comme elle venait de se relever de dessus le parquet où son père l'avait laissée étendue. Les larmes coulaient de ses yeux en abondance, et le sang ruisselait de ses lèvres. Il vola vers elle et s'écria, avec un mélange de tendresse et d'horreur, « Oh, ma Sophie, que vois-je? Quel spectacle épouvantable !» Elle jeta sur lui un tendre regard avant de parler et dit, « Pour l'amour du ciel, monsieur Jones, comment êtes-vous venu ici? Laissez-moi, je vous en conjure, sortez à l'instant même. » « Ah, je vous en supplie, dit-il, n'insistez pas sur un ordre aussi cruel. Mon cœur saigne plus encore que les lèvres de ma chère Sophie. Ô Sophie, avec quel plaisir je tarirai mes veines pour épargner une goutte de ce sang précieux. » « Je vous ai déjà trop d'obligations de cette nature, » répondit-elle. Puis, le fixant tendrement, elle s'écria avec l'accent du désespoir, « Oh, monsieur Jones, pourquoi m'avez-vous sauvé la vie? Ma mort eût été plus heureuse et pour vous et pour moi. »« Plus heureuse et pour vous et pour moi, » s'écria-t-il. « Le supplice de la roue, les plus affreuses tortures me feraient souffrir une mort moins cruelle que l'état où je vois ma Sophie. Je ne puis supporter cette terrible parole. » Moi qui ne vis que pour elle. » Sa voix et ses regards étaient pleins d'une tendresse inexprimable en prononçant ces mots. Il saisit doucement sa main, qu'elle ne retira pas. Mais, à dire vrai, elle savait à peine ce qu'elle faisait, et ne s'apercevait pas que sa main était dans celle de Jones. Les deux amants gardèrent quelque temps le silence. Les yeux de Jones étaient avidement fixés sur Sophie, et ceux de Sophie étaient baissés sur la terre. Enfin, elle retrouva assez de force pour le prier encore une fois de la laisser seule, lui protestant qu'elle serait inévitablement perdue si on les trouvait ensemble. « Oh, monsieur Jones, ajouta-t-elle, vous ne savez pas ce qui s'est passé dans cette cruelle soirée. » « Je sais tout, ma Sophie, répondit-il, votre barbare père m'a tout dit, et c'est lui-même qui m'envoie vers vous. » « C'est mon père qui vous envoie vers moi, s'écria-t-elle, quel songe vous abuse ? » Plût à Dieu, s'écria-t-il, que tout ceci ne fut qu'un songe. « Oh, Sophie, votre père m'a envoyé vers vous pour être l'avocat de mon odieux rival, pour vous solliciter en sa faveur. J'ai saisi tous les moyens qui se sont présentés d'avoir accès auprès de vous. Oh, parlez-moi, Sophie, rassurez ce cœur navré de douleur. Sûrement personne n'aima jamais comme moi. N'ayez pas la cruauté de me retirer cette main charmante. Un moment, peut-être, vous arrache à moi pour toujours. Soyez sûr qu'il ne fallait rien moins que cette cruelle occasion pour m'avoir fait surmonter le respect et la vénération que vous m'avez inspirés. » Le trouble extrême de Sophie l'obligea à garder un moment le silence. Bientôt après, elle leva doucement les yeux sur lui et s'écria, « Que voulez-vous que je dise, monsieur Jones ?»« Oh, promettez-moi seulement, » s'écria Jones, « que vous ne vous donnerez jamais à Blifil. » Ah, répondit-elle, ne prononcez pas ce nom détesté. Soyez sûr que je ne lui donnerai jamais ce qu'il me sera possible de lui refuser. Puisque vous avez tant de bonté pour moi, s'écria-t-il, ah, de grâce, dites un mot de plus, ajoutez que je puis espérer. Hélas, monsieur Jones, dit-elle, que voulez-vous de moi? Quelle espérance puis-je donner? Vous connaissez les intentions de mon père. Oui, répondit-il, mais je sais qu'on ne peut forcer votre consentement. Fort bien, dit-elle. Mais quelles seront les conséquences épouvantables de ma désobéissance? Mon malheur d'abord, et c'est ce qui me touche le moins. Mais je ne puis supporter la pensée d'être la cause du malheur de mon père. C'est lui-même, s'écria Jones, qui sera la cause de son malheur en exerçant sur vous un pouvoir que la nature ne lui a pas donné. Songez à mon malheur si je dois vous perdre, et voyez de quel côté la pitié doit laisser pencher sa balance. « Ah, je n'y songe que trop, » répliqua-t-elle. « Pouvez-vous imaginer que je sois assez aveugle pour ne pas voir que je causerai infailliblement votre malheur si je cédais à vos désirs? C'est cette pensée qui me donne le courage de vous ordonner, s'il le faut, de me fuir pour toujours, si vous voulez éviter votre perte. » « Je ne crains point de me perdre, » s'écria-t-il, « mais de perdre Sophie. Si vous voulez me sauver du plus horrible désespoir, révoquez cet arrêt cruel. » Non, je ne peux jamais me séparer de vous. Non, je ne le puis. » Les deux amants, aussi tremblants l'un que l'autre, gardèrent alors un profond silence, Sophie étant incapable de retirer sa main de celle de Jones, et Jones presque aussi incapable de tenir la main de Sophie. Quand cette scène, que quelques-uns de mes lecteurs, si je ne me trompe, trouveront suffisamment longue, fut interrompue par une autre d'une nature si différente que nous en réservons le récit pour un autre chapitre.